des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission consacrée à deux légendes, deux vieilles légendes, même si l'une l'est un peu plus que l'autre. Des légendes aujourd'hui réactivées par deux auteurs, eux, très contemporains. La première, la plus récente peut-être, c'est celle de Guignol, créature mythique, petit bonhomme de bois, redresseur de torts, inventé au début du 19e siècle par un canut au chômage qui ne savait pas écrire mais qui savait sculpter et jouer et captiver. Il s'appelait Laurent Mourguet et c'est Paul Fournel qui le remet à l'honneur. Une deuxième fois d'ailleurs avec Faire Guignol chez POL. Bonjour Paul Fournel.
Bonjour.
La deuxième, la plus ancienne, c'est celle de Jason et de ses Argonautes que remet à l'honneur Andrea Marcolongo que nous avions reçu ici même pour son plaidoyer pour le grec ancien, la langue géniale, plaidoyer pour le grec ancien, mais qui était aussi une sorte de journal intime aussi d'une helléniste, une sorte d'ode à la grammaire. Ça s'appelle cette fois-ci La part du héros, c'est toujours aux éditions des Belles Lettres et ce livre s'accompagne d'ailleurs, signalons-le, d'une nouvelle édition des Argonautiques, le poème originel écrit fixé par Apollonios de Rhodes au 3e siècle avant Jésus-Christ. Bonjour Andrea Marcolongo.
Bonjour.
Et j'en profite pour saluer Federica Cianficoni qui vous interprétera pendant cette émission. Bonjour Federica.
Bonjour.
Alors Paul Fournel, je le disais, c'est la deuxième fois que vous redonnez vie à Guignol, ce personnage de légende lyonnais à l'origine mais qui est devenu une célébrité mondiale. Mondiale ou je peux aller jusqu'à dire mondiale ?
Oui, d'une certaine façon, puisque j'ai même assisté à une représentation de Guignol dans l'Ohio, me semble-t-il.
Ah oui. Donc c'est mondial.
Oui, on peut dire que c'est un peu mondial.
C'est loin de Lyon.
Mais chaque pays a sa marionnette populaire. Et Guignol incarne véritablement c'est la France et Lyon plus que toute autre chose.
En tout cas, en France, tous les enfants, ou presque, ont déjà vu ce petit personnage de bois se moquer des institutions, de l'ordre établi avec son copain Gnafron. Alors ce personnage, il a été créé par un certain Laurent Mourguet, né en 1769, mort en 1844. C'était un canut au chômage, marionnettiste de foire à Lyon, survivant de la Révolution, et vous le faites revivre. C'est le héros, en tout cas, de ce Faire Guignol. Alors je disais, c'est pas la première fois que vous revenez sur lui, parce qu'il y avait eu un livre en 1995, Guignol, les Mourguets. Pourquoi revenir aujourd'hui sur ce personnage? Est-ce que c'est lié, seulement lié, à son anniversaire? Je crois que Laurent Mourguet aurait 250 ans, c'est
oui,
ça?
Oui, non, c'est pas lié du tout à son anniversaire, mais je voulais passer par le roman pour rendre hommage à ce personnage dont on sait très peu de choses. Et je voulais m'autoriser à mentir un peu, ce que je n'avais pas fait dans mon travail de recherche auparavant. Et donc, je voulais vraiment m'autoriser à mentir et à inventer des situations et des choses. C'est tout de même extraordinaire de penser que cet homme qui ne savait pas écrire a créé avec Don Juan le seul personnage dont le nom soit devenu un nom commun. Moi, on m'a dit pendant toute mon enfance, arrête de faire le guignol. Enfin, on n'arrête pas.
On
de
va faire un peu
le
guignol quand même dans
tout
cette émission,
le temps. Oui.
J'espère.
Et donc, il y a quelque chose d'assez magique, et on ne sait rien quasiment de lui. Donc voilà, je voulais passer par le roman absolument pour lui rendre hommage et pour rendre à Mourguet son guignol.
Voilà. Alors, d'en faire guignol, vous, prix Goncourt de la Nouvelle, prix Renaudot des lycéens, régent du collège de pataphysique.
Oui.
Et président de l'Oulipo,
exactement,
l'ouvroir de littérature potentielle.
Mm-hmm.
Voilà, c'est exactement ça votre titre, président.
Absolument.
Je vous appelle président, en fait.
Absolument.
Peut-être.
Appelez-moi simplement président.
Très bien, on va faire ça, président. Alors, dans ce livre de Mourguet, vous écrivez, il ajoutait la petitesse de ses personnages à sa propre invisibilité. Et vous lui donnez une visibilité, c'est absolument passionnant. Vous plongez dans les chansons et vous nous faites plonger avec lui dans les chansons de l'époque, dans les lettres de police. Vous reproduisez cette langue tout à fait guignolesque, pleine de vieux mots goûteux, une langue qui emprunte autant à celle des canuts de Lyon qu'à l'imagination et la poésie populaire. Et vous en profitez, parce qu'il y a Guignol, mais il n'y a pas que lui, pour vous poser deux questions décisives et qui ont trait vraiment à la littérature. Qu'est-ce qu'on écrit quand on ne sait pas écrire? Et qu'est-ce qu'on écrit quand on peut tout écrire?
Ben oui, c'est le chemin de l'Oulipo opposé au chemin de Guignol. Et c'est absolument passionnant de voir comment le texte naît alors que On n'a pas la culture du texte, mais il avait une culture théâtrale, Laurent Mourgat. Il faut reconnaître, il jouait au théâtre. Et donc, il aimait, il savait des tas de textes par cœur, mais il n'écrivait pas. Les documents officiels des actes de naissance de ses enfants portent une croix à la place de sa signature.
D'ailleurs, il y a un épisode, on y reviendra, où le comité de censure se présente et lui demande, mais moi, j'écris pas, monsieur. Voilà. Bonjour, Andrea Marcolongo. Nous vous avions reçu ici pour votre premier livre, La langue géniale, best-seller sur le grec ancien, il fallait le faire, à la fois déclaration d'amour à cette langue ancienne et néanmoins vivante, journal intime d'une Hélénie, je le disais, et manuel de grammaire poétique et pragmatique, nourri d'exemples et d'expériences, vendu à 200 000 exemplaires. Vous revenez avec un nouveau livre, La part du héros, qui lui aussi prend sa source dans un temps révolu, bien au-delà de l'époque de Guignol. Il s'agit de l'Antiquité, évidemment, puisque votre texte part d'un poème très ancien, Les Argonautiques. Même si c'était une histoire ancienne, elle a été formalisée, fixée par un certain Apollonios de Rhodes, personnage sur lequel on ne sait pas grand-chose, comme Mourgat, si ce n'est qu'il est peut-être né en 295 avant Jésus-Christ, qu'il fut le précepteur de Ptolémée III et Vergète, et qu'il a sans doute été le directeur de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, je ne me trompe pas.
C'est justement ça.
Je souris parce que lorsque Apollonios de Rhodes a décidé de mettre par écrit ce mythe très ancien des Argonautes, n'a eu aucun succès. Il a été même licencié. Et depuis ce moment-là, il y a cette légende qui se transmet et nous sommes là en espérant d'échanger les choses et que tous ceux qui écrivent à propos des Argonautes ont de la malchance. Mais je n'ai pas peur.
Ah oui, non, mais ça se passe plutôt bien, en tout cas en Italie. Voilà, et ça va bien se passer en France, on vous le souhaite en tout cas. Alors, juste donc sur cette vieille histoire, Andrea Marcolongo, où l'on voit l'intrépide et valeureux Jason s'embarquer avec 50 autres camarades à la recherche de l'énigmatique toison d'or. Sur cette histoire, vous greffez votre histoire et une réflexion sur l'amour, sur l'étrange proximité entre les mots éros et héros, comme si l'amour était une voie vers l'héroïsme, comme si cette vieille histoire aussi contenait des leçons pour vos contemporains. Un mot sur ce titre aussi énigmatique que la toison d'or, la part du héros qui traduit donc le titre italien La misura eroica. Quel sens vous donnez à cette expression? Qu'est-ce que la part du héros et qu'est-ce qu'était d'ailleurs la mesure héroïque dans le titre originel?
Tout d'abord,
je pense que vous en conviendrez. Écrire des livres concernant l'Antiquité, ce n'est qu'écrire du présent. En fait, c'est ça ce que classique signifie. Ma misura eroica, la mesure héroïque en italien, c'est un peu la même chose que la part du héros, c'est-à-dire c'est un appel au contemporain, au temps cynique, plat, actuel, où on va vers les moins de 10 ans, où la culture est devenue presque énigmatique comme la toison d'or. Et la mesure héroïque, ou bien la part du héros, c'est un appel à être des héros responsables, protagonistes de nos vies. Les Grecs, ou bien Platon, disaient qu'il n'existe au monde un homme aussi lâche qu'amour ne peut pas transformer un héros.
Alors, je pensais aussi, en mentionnant cette mesure héroïque, à l'un des préceptes les plus importants de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on se souvient du premier précepte, peut-être « connais-toi toi-même », qui est encore un petit peu connu, mais il y en avait un deuxième qui était peut-être plus important, « meden agan » en grec, « rien de trop ». Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre « meden agan »,« rien de trop », et l'idée de trouver aussi sa propre mesure aussi dans notre époque?
Assolutamente sì, il secondo
oui,
motto
absolument.
Dell'oracolo
en fait, di Delphes, le deuxième message dell'oracolo de Delphes, Meden Hagan,
a été
d'ailleurs la principale inspiration de ce livre. Cette époque où nous vivons est un peu schizophrénique. Il y a le plus bas, le plus haut, mais tout d'abord il faut connaître soi-même, savoir qui on est, parce que nous sommes tous des héros, des protagonistes responsables de nos vies, et donc rien de trop, mais rien de trop peu non plus.
Merci à tous les deux de participer à ce temps des écrivains, où il sera question de la création des légendes, de ce que l'on peut en faire, de l'héroïsme par exemple. Je voudrais d'ailleurs vous demander, pour commencer, à tous les deux, si vous ne pensez pas, vous avez commencé à en parler Andrea, si vous ne pensez pas que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui exige peut-être davantage qu'une autre qu'on se penche à nouveau sur ces vieilles légendes pour voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Même Guignol, Paul Fournel.
Oui, je pense que, bon, en vérité, toutes les époques ont eu besoin de ça. Il n'y a pas, c'est un besoin humain, les hommes ont besoin de héros. Ils ont besoin de personnages qui les incarnent, qui leur ressemblent, ou à qui ils voudraient ressembler. Donc il y a Guignol, disons, on ressemble plutôt à Guignol. Et Jason, on voudrait lui ressembler. On n'a pas toujours les moyens, on aimerait bien. Mais donc il y a toujours eu ça. Ces personnages-là sont indispensables à la civilisation.
Vous dites qu'il est plus facile de faire Guignol que de faire Jason.
Je pense, objectivement, oui. En tout cas, personnellement, je réussis mieux à faire Guignol qu'à faire Jason. C'est sûr.
Vous connaissez Guignol, Andrea Marcolongo, en Italie, est-ce que c'est un personnage... Alors, il vient de l'Italie, hein, vous nous en parlerez, mais Guignol, comme ça, le nom, est-ce que...
Moi, je le connais à cause de mes origines normandes. Je ne sais pas s'il est vraiment connu en Italie. Des personnages comme Guignol, aujourd'hui, en Italie, sont un peu oubliés, se sont considérés du folklore populaire ou quelque chose pour les tout-petits. Alors que, si je reviens à la question, je vois qu'il y a vraiment un besoin très fort d'oxygène, d'histoire, de légende, de mythes.
L'Italie est un pays très très riche en marionnettes, de toutes sortes. Que ce soit les grandes, les poupées siciliens, l'héroïsme, la chanson de Roland, tout ça, ou que ce soit le polichinelle napolitain ou le Girolamo de Lombardie, et puis les marionnettes aussi à fil de Lombardie, les grandes familles, les grandes, grandes marionnettes, les grandes troupes. Donc l'Italie est un pays marionnettique.
Guignol est un descendant de Polichinelle, parce que Polichinelle était dans le théâtre de marionnettes à la Révolution.
Oui.
Là, avant Guignol.
Bien sûr, Polichinelle. Enfin, le Pulcinella napolitain est la marionnette qui a eu le plus de diffusion et de succès en Europe. On le retrouve encore aujourd'hui en Angleterre sous le nom de Punch. Et où il continue à être extrêmement vivant. C'est une tradition très vivante.
Punch que d'ailleurs Mourguet va incorporer à son répertoire
oui,
de marionnettes.
Bien sûr. Et en fait, Laurent Mourguet, il débute comme arracheur de dents. Et la tradition voulait que, avant d'arracher les dents des gens, on les invite à venir sur le podium se faire tirer les caries. En leur jouant du polichinelle. Et donc il expliquait ce qu'il allait faire. Et c'est de cette tradition-là que Guignol sera issu.
Légende, étymologiquement, c'est ce qui doit être dit. Comment expliquez-vous, Andrea Marcolongo, leur étonnante longévité? Parlons de Médée, de Jason, des Argonautes. Comment se fait-il qu'ils nous parlent aujourd'hui? Guignol fait encore rire les enfants d'aujourd'hui, mais Jason, les Argonautes, la Toison d'Or, pourquoi ça nous parle en fait?
Je suis tombée amoureuse du mythe de Jason, des Argonautes, de ces aventuriers qui larguent les amarres sur le premier navire au monde. Je dois dire que c'est le mythe le plus ancien de l'ancienne Grèce. Et c'est un mythe que tout le monde connaît. Et c'est tellement connu qu'il ne faut pas le raconter finalement, même pas dans l'Iliade ou l'Odyssée. Donc, j'ai pensé qu'aujourd'hui, en 2018-19, il y a véritablement un besoin de le raconter à nouveau.
Tu hai detto dell'etimologia di legenda.
Tu as parlé de l'étymologie du mot légende.
Io adoro la parola mito, la
definizione. Moi j'adore le mot mythe.
Credo di averne decine.
Et il y a des dizaines de définitions, mais la meilleure parmi toutes, et selon mon expérience, par exemple, il y a deux jours, j'étais à Bologne sur une petite rencontre concernant les mythes classiques. Donc il y avait un parallèle entre les Argonautes et un mythe persan. Sont très similaires. Et le public, qui n'était pas helléniste, qui n'avait jamais probablement lu l'Iliade ou l'Odyssée, me disait, je vais rentrer à la maison et je vais relire le mythe. Donc le mythe, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme retrouver un rappel de nous dans le présent.
Le point commun entre vous deux aussi, en dehors de ce besoin d'histoire aussi qu'on a tous, c'est que finalement, vous essayez de satisfaire aussi avec ces livres, de satisfaire pour vous peut-être avant tout, et pour les lecteurs, c'est que vous vous servez de la langue d'aujourd'hui, mais que vous l'augmentez par des mots plus anciens. Alors des mots lyonnais pour vous, Paul Fournel, des mots grecs pour vous, Andrea. En quoi est-ce important de revenir aussi sur ces mots, de les inscrire même dans la chair même du texte, alors que vous auriez pu vous en passer, vous auriez pu faire un guignol, ne pas utiliser les mots des canuts, et Andrea, vous auriez pu, je sais que vous n'auriez pas pu, vous, mais en tout cas, quelqu'un d'autre aurait pu se passer du grec dans le texte. Quel sens ça avait justement d'incruster des mots grecs ou du lyonnais dans cette matière contemporaine qu'est vos livres ?
Personnellement, je pense que le mythe ou raconter un mythe a besoin d'un style d'écriture similaire à la merveille que ce mythe suscite, que cette histoire suscite. Et en écrivant ce livre qui parle du présent et qui ne parle pas de l'ancien, en même temps, j'ai traduit les argonautiques d'Apollon d'Hérode. Donc cette langue est rentrée à moi et au fur et à mesure a flui sur les pages.
Mais donc c'était important de mettre des mots en grec, d'expliquer le sens en latin aussi, vous l'utilisez. C'était important pour vous, presque matériellement, pour travailler sur le texte, presque de l'intérieur ?
Absolument, si.
Oui, absolument.
Je
ne pourrais pas agir différemment. Je pense que c'est très important d'ailleurs pour les lecteurs parce que la langue que nous parlons n'est pas simplement un travail de philologie ou d'érudition. Lorsque, par exemple, je lis en italien le mot crisi, crise, je pense au grec krino, qui signifie choisir. Et cela ouvre un monde de émerveillement et un regard différent sur l'âge contemporain.
Choisir et juger aussi, c'est le moment du jugement. Et vous, Paul Fournel, le besoin de nous mettre ces vieux mots absolument goûteux, des mots qu'on... Parfois, c'est juste le bargeois pour le bourgeois.
Oui, c'est des
du coup, qui vient de la barge, le bargeois sur sa barge. Un autre bateau.
Mais en fait, je tenais absolument à ça parce que guignol, s'il est universel, c'est d'abord et avant tout parce qu'il est particulier. C'est parce qu'il est de Saint-Georges, parce qu'il est de Saint-Jean et de Saint-Paul, les trois quartiers du Vieux-Lyon. C'est parce qu'il déménage un jour de Saint-Georges vers Saint-Paul. Et c'est cette particularité, c'est cette petitesse qui fait son universalité. C'est pas en visant l'universel qu'on l'atteint, c'est toujours en enfonçant très profondément dans le particulier. Et donc la langue de Guignol, c'est une chose absolument essentielle. Guignol est né déjà pour sauver la langue de son père. Et donc c'est indispensable pour moi. Je ne peux pas séparer Guignol de l'accent lyonnais et je ne peux pas le séparer de ce vocabulaire comme ça tiré du franco-provençal qui est un vocabulaire tout à fait compréhensible pour nous, qu'on a perdu, mais qui est notre vocabulaire de fond. Et donc, je n'imaginais pas une seule seconde faire l'économie de ces mots délicieux que Guignol emploie avec son diaphragme préféré et ses comparses.
On va l'écouter, Guignol, mais d'abord, et on va poursuivre avec vous, Andrea Marco Longo, la part du héros aux belles lettres, et vous, Paul Fournel, faire Guignol chez POL. On commence par Guignol, d'abord, avant de redevenir sérieux. Vous avez choisi de nous faire écouter les canuts dans la version de Francesca Solville. On l'écoute, et puis je vous demande pourquoi cette version-là.
Le temps des écrivains,
Christophe Onodibio.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous.
On écoutait Francesca Solville, Les Canus, c'est le choix de Paul Fournel qui publie Faire Guignol chez POL. Il est avec Andrea Marcolongo qui publie La part du héros aux belles lettres. Pourquoi ce choix musical? J'ai honte d'ailleurs de vous demander pourquoi, parce que...
Les Canus, voilà. C'est une évidence, oui. Puisque Guignol est né d'un canu dans Mourguet, puis il a accompagné cette cause pendant tout son destin. Mais j'ai choisi la version de Francesca Solville parce que on parle beaucoup des canus, mais moins des canuses. Et j'étais content d'avoir une voix de femme parce que les métiers du tissage, les tisseuses, les femmes, les ourdisseuses étaient très 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 nombreuses dans le monde des canuts. Elles ont eu à souffrir autant que les hommes de la récession et de l'arrêt, de la meurthe, ce qu'on appelait, donc ce que Guignol appelle la meurthe, c'est-à-dire ce moment où tout s'arrête, où la fabrique s'arrête.
Où les métiers à tisser.
Voilà, où tout se tait, où la biste en claque, puisque c'est le mot qui est utilisé et qui reproduit le bruit du métier à tisser, le moment où la biste en claque s'arrête et où Lyon devient silencieuse au moment de la Révolution. Et donc, j'ai voulu rendre hommage donc aux canus et aux canuses.
Alors, Faire Guignol, Paul Fournel, c'est une évocation donc de ce héros lyonnais devenu national et un petit peu international. Vous nous parliez de représentation dans l'Ohio, un petit héros mais dont la célébrité a totalement éclipsé celle de son créateur, celle à l'époque de son créateur. Guignol, c'est en effet devenu l'emblème de la ville de Lyon et avant tout des petites gens. Guignol, c'est aussi le chantre du parler lyonnais, c'est aussi une icône qui peut se moquer du pouvoir, c'est une marionnette mais finalement qui arrive, lui, presque à manipuler ceux qui l'écoutent, en tout cas peut-être à les changer de l'intérieur, à leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et sa fortune est immense, puisque son nom a servi à baptiser le genre de théâtre dans lequel il évolue, qui se pratique donc dans un castelet, avec des marionnettes à gaines et des accessoires énormes qui permettent des effets comiques insoupçonnables. Et jusqu'au Guignol de l'info, je me souviens de cette émission, donc le mot vraiment...
Le nom est revendiqué par... L'avantage du personnage de Guignol, c'est qu'il n'a pas été extrêmement défini dès le début et qu'il a suscité des fidélités très diverses. Il y a eu du Guignol au front, en 14, il y avait Guignol au front. Il y a eu du Guignol réactionnaire, il y a eu du Guignol pour enfants, il y a du Guignol pour adultes, il y a du Guignol pornographique.
Ah oui.
Mais oui, tout le monde s'est emparé du personnage. Et on a fait une sorte de slogan, parfois. Il y a eu un journal à Lyon, dans les années 70, qui s'appelait Guignol et qui était un canard enchaîné local. Il y avait les Guignols de l'info jusqu'à très récemment, dans lesquels Guignol n'apparaît pas du tout.
Non,
mais le nom est resté comme une sorte de valeur contestataire.
Alors le nom Guignol est resté, mais celui qui a disparu et auquel vous avez décidé de redonner la vie, c'est le créateur de Guignol, Laurent Mourguet. Il était du même terroir que vous, c'est un survivant de la Révolution française. D'ailleurs, votre livre est empreint de ce climat au début, mm-hmm. où on coupait les têtes, voilà. Parfois ce désir revient dans notre pays.
Le chômage aussi.
Et le chômage aussi, puisqu'il était au chômage, Laurent Mourguet. Donc c'est son 250e anniversaire, mais ce livre n'est pas là seulement pour ça. Et comme on sait peu de choses sur lui, en bon oulipien que vous êtes débrouillé avec ce que vous aviez pour faire feu du bois qui était à votre disposition.
Bois de tilleul.
De bois de tilleul.
Bois de tilleul. La tête de guignol est en bois de tilleul, qui est un bois de droit fil, assez facile à sculpter et surtout assez léger pour pouvoir être tenu 2 heures avec les mains en l'air.
Ça fait, Paul Fournel, 50 ans que vous travaillez sur lui. C'était même, si je ne m'abuse, votre sujet de thèse. Alors, vous avez fait des recherches hein, dans les registres paroissiaux, les documents de police, les marionnettes du musée Gadagne. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage de Guignol, dans ce livre, donc, est relevé d'expressions de l'époque, du parler des canuts de Lyon. En fait, il nous rapproche de la littérature en général. C'est-à-dire que du petit éloge d'un parler local, vous embrassez toute la littérature, puisque, on le disait un peu en commençant cette émission, au fond, il permet de réfléchir à cette question très importante. Qu'est-ce qu'on écrit quand on ne sait pas écrire ? Alors, est-ce que vous avez trouvé des réponses ?
Oui, forcément, on en trouve. En vérité, on travaille la mémoire, on se souvient. Quand on ne sait pas écrire, on se souvient et on crée à partir de ce qu'on a déjà entendu, de ce qu'on a déjà vécu, ressenti. Et c'est un travail, c'était le rôle du théâtre. En vérité, le théâtre a joué un rôle absolument essentiel dans la transmission culturelle. Le livre, bien sûr, mais pas partout et pas tout le temps. Et donc le théâtre jouait un rôle. C'est pour ça qu'il était considéré comme subversif. C'est pour ça que Mourguet n'a pas pu faire du théâtre comme il rêvait d'en faire, mais qu'il a pu faire des marionnettes parce que les marionnettes, on leur autorisait la parole. Et cette parole est une parole intéressante parce que la parole de Guignol n'est pas la parole de Mourguet. Guignol a une parole propre. Il dit des choses que Mourguet jamais n'aurait osé dire. Et on peut, derrière Guignol, ou sous Guignol, puisque c'est manipulé par en dessous, on peut dire des choses que jamais on n'oserait dire dans la vraie vie. Et donc Guignol cite cette expression d'une parole libre.
Donc si je voulais parodier Alain Badiou et que je vous demandais de quoi Guignol est-il le nom, vous me répondriez « liberté ».
Voilà, ouais. Exactement.
On va vous entendre lire, si vous en êtes d'accord, Paul Fournel. C'est le début, en fait, parce que comme on va parler tout à l'heure de Jason et des Argonautes, on peut d'ailleurs en parler aussi dès maintenant, il sera question d'étymologie aussi, de langue. Et là, on a l'étymologie, la vraie peut-être, à moins que ce soit du roman. Voilà, on vous écoute.
Non, je ne sais pas.
Lisez d'abord.
Je voudrais simplement dire, pour que le passage soit clair, que Guignol, né à Saint-Georges, dans le quartier du Port d'Ainay à Lyon, a toujours eu un voisinage extrêmement suivi et assidu avec les mariniers du port. Le premier Guignol, sculpté par Laurent Mourguet à sa propre image, portait des boutons d'or avec une encre de marine dessus. Ben voilà. C'est très important.
Ben oui.
Donc voilà. Laurent se cale les fesses dans un rouleau de cordage. Il aime venir chaque jour bavarder un moment avec le père Chapelle, qui est le patron des crocheteurs. C'est lui qui répartit le travail, qui décide de qui portera les échelles pour la remonte, de qui donnera le rythme pour tirer les cordes sur le pont. C'est surtout lui qui est au courant de tout, qui récolte les nouvelles du nord comme du sud lorsqu'elles arrivent en bateau. Il sait les histoires, les petites et la grande, avant tout le monde, et il détient le secret de s'en amuser. « Ta Jeanne et tes petits vont bien ? Tant qu'il y aura à manger. T'en as combien au juste ? Bah, 3 déjà, 90, 92, et le petit dernier de cette année, 93. Vous n'avez pas perdu votre temps ? Fais-leur péter la miaille. Remarque que si t'es prêt à bouger sur les marchés pour gagner un peu, j'ai récupéré un sac de bricoles à vendre. Ne me demande pas comment. Je te le donne et tu me paieras quand tu auras vendu, si tu vends. » Laurent regarde dans le sac et se redresse. « C'est un bric-à-brac et je me demande bien qui va vouloir acheter ça, mais je veux bien. Je peux toujours essayer. » L'affaire est faite. Chapelle fait voltiger son bâton dans les airs et le récupère d'un tour de main. « Dis-moi, père Chapelle, c'est quoi ce gourdin que tu si grôles de la sorte ? Tu comptes assommer quelqu'un ? » ?»« Oh, il y en aurait plus d'un à assommer. Cela s'appelle un guignol, cher Laurent. Tu vois, il est fendu au bout. Sur les bateaux, on le glisse le long de la drisse et il sert à faire tenir le mât bien droit. Tout ce qui fait tenir le mât bien droit est béni, père Chapelle. Tu en sais quelque chose. »
Voilà, Paul Fournel, faire guignol. Alors, je parlais d'étymologie. Ça, c'est l'étymologie que vous proposez. C'est-à-dire que c'est une...
Oui.
Voilà, ça on aide à faire...
Jamais,
voilà.
On ne saura jamais la vérité. Il y a 5 ou 6 hypothèses.
Ben oui, parce qu'il y a un voisin de Mourguet qui... on raconte hein, aussi. Il y a eu des batailles homériques hein, autour de l'étymologie de Guignol. Que ça venait de ces guignolants, c'est tordant, c'est amusant. Mmh. Un certain Dévernet qui disait que ça venait de guigne-œil. Sauf que les yeux de la marionnette,
pas, hein.
Voilà.
Oui, il ne louche pas.
Mmh. Alors, une chose, moi, que j'ai découvert plein de choses dans votre livre, c'est qu'en fait, Guignol, et ce visage si particulier, c'est le visage de Mourguet.
Exactement. Il a donné à Guignol son propre visage.
Avec ses pommettes
avec
hautes.
Avec ses petites pommettes hautes, ses petites fossettes de chaque côté de la bouche.
Visage rieur, hein, déjà.
Oui, ce visage rieur. Cet air bon, c'était un homme bon, et donc il avait... Il ressemblait à lui-même.
Alors, c'est un cas aussi, la question se posera à Andrea Marcolongo aussi, puisque vous avez choisi, la question du genre est importante aussi pour le livre, c'est important dans la part du héros, du genre, disons, littéraire, à quel genre ça appartient. Vous avez commencé, Paul Fournel, à travailler sur Guignol de façon, j'allais dire, en expert, en chercheur, et c'est marqué roman. Hein, sur ce livre. Que recouvre pour vous le mot roman, Paul Fournel, dans le cas de Faire Guignol ?
Et il recouvre la part de mensonge, le mensonge qui se rapproche de ce qu'était sans doute la vérité, en tout cas je l'espère, mais il recouvre la part de mensonge parce qu'on ne sait rien de ces gens-là, de ces forains, de ces artistes de rue, on ne fait pas mémoire. Lui-même ne sachant pas écrire, il n'a pas laissé de documents. Tout ce qu'on sait sur Laurent Mourguet sont des souvenirs rapportés ou des petits éléments comme les actes de naissance de ses enfants. Ses marionnettes, et puis des témoignages. J'ai entendu Mourguet père jouer ça en telle année, etc. Bon, donc c'est assez mince. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits, notamment par Gaston Batty, qui a fait un travail très très important. Mais on ne sait pas objectivement. Et donc j'étais obligé de faire un roman parce que il y a dedans des choses qui sont des choses objectives, des éléments, des extraits de dialogues et de pièces du répertoire qui sont des choses qu'on dit avoir été joué par Mourguet père, mais il y a également des choses que j'ai inventées, que j'ai rajoutées ici et là.
Vous avez parlé de mémoire, Paul Fournel, et je vous cite, « Les pauvres ne font pas mémoire », c'est ce que vous écrivez dans ce texte. C'est aux écrivains de s'en charger, et en quoi la mémoire de Mourguet était à repêcher, ou à faire, comme vous dites ?
Mais je pensais qu'il faut lui rendre son guignol, c'est urgent. Don Juan appartient à Molière, à tout le monde, mais aussi à Molière. Et le guignol appartient à Mourguet, donc il faut le lui rendre, c'est justice.
Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est l'aventure créative que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à la création du personnage, avec des scènes hilarantes, effectivement, avant l'arrachage de dents, parce qu'il était arracheur de dents. Donc il faut distraire, donc les représentations ont lieu, on le voit sculpter dans son petit atelier, avec son épouse, qui est là, qui l'habille. Ses enfants sont là. D'ailleurs, certains des enfants vont
lui succéder.
Et vont mourir avant lui, parfois. Ouais. Donc, il y a toute cette aventure de la création d'un héros, de la création d'un mythe. Mais c'est aussi une aventure créative que vous nous racontez, cette aventure langagière. Alors, je voulais aussi vous lire, Paul Fournel, Guignol. La police, toujours pleine de malice, a décidé que nous étions pas propres à vous divertir. Il paraîtrait qu'on serait des malappris et des assassins. Plus ou moins souteneur aussi, gnafron. C'est vrai qu'avec notre carrure et nos membres puissants, nous avons tout pour faire peur. Trembler peuple, trembler autorité, trembler grand de la terre. Guignol et gnafron arrivent et ils ne sont même pas armés. Alors voilà qu'on veut nous couper la chic, gnafron. On veut qu'on récite ce qu'on n'est même pas capable de lire. Guignol, on va pas y arriver, gnafron. On n'a pas l'instruction, guignol. On n'est pas bon pour la lecture, gnafron. On n'est pas bon pour la... calculure, guignol, on n'est pas bon pour la magistrature, on n'est pas bon pour la cure. Et ça continue comme ça, et ça finit. On est juste bon pour l'aventure, gnafron dit, et la biture. Ouais. Tout ça, le plaisir du texte était quelque chose de fondamental pour vous. Il n'y a pas guignol s'il n'y a pas cette langue guignolesque.
Non, c'est ce qui se passe dans le Castelet, c'est cette espèce d'improvisation permanente qui se passe dans le Castelet, et qui est le charme absolu de ce genre de marionnette-là. C'est qu'à chaque instant... La marionnette prend la parole, c'est une marionnette bavarde, et il se balance des improvisations comme ça. C'est des choses qui se font, des petits impromptus qui se font comme ça, sur le vif, dans l'endroit où on se trouve, à l'instant où on se trouve, avec les gens qu'on a en face de soi. Mmh. Donc c'est ça qui donne la dynamique véritable au spectacle.
Mais ça, ça vient du répertoire, ou ça, c'est de l'invention de Paul Fournel?
Non, ça, c'est de l'invention, ce passage-là, oui.
Mmh. Ah ouais, vous n'hésitez pas, quoi. Vous permettez de faire parler Guignol comme Paul Fournel voudrait qu'il il parle.
Ah, mais absolument, absolument, sans aucune vergogne.
Ça, c'est la part du héros.
Oui, voilà. Exactement.
Voilà. Est-ce que, justement, la question s'adresse à tous les deux, est-ce que, justement, là, on a parlé de mémoire, la mémoire, c'est quelque chose de très noble, certes, réactiver la mémoire, mais est-ce que, finalement, Jason, les Argonautes, cette vieille histoire, ou l'histoire de Guignol, est-ce que, finalement, si ça parle aujourd'hui, ce n'est pas aussi parce qu'ils incarnent une dimension de contre-pouvoir ? En tant que héros, presque politique au sens étymologique du terme. Puisque dans votre texte, Paul Fournel, on voit justement qu'il s'agit aussi, et vous le disiez tout à l'heure, de parler contre les institutions, de parler contre la police, même de casser du flic. Hein,
oui. C'est la définition du héros.
Mmh. Oui. Mmh. Et quand je dis casser du flic, c'est une expression qui est utilisée. Ben, hein,
oui, ben, Guignol est quand même, il a cogné quelques gendarmes dans sa carrière. Hein, faut quand même pas l'oublier. Et bien sûr, mais je crois que c'est la définition même du héros, c'est celui qui s'oppose, celui qui grandit contre.
Et puis c'était aussi, on parlait énormément politique dans les textes de Guignol.
C'est pas de la politique au sens grande politique, c'est plus parler du quotidien, c'est très horizontal, c'est j'ai faim, j'ai soif, comment on se débrouille quand on a faim, quand on a soif, quand on assiste à une injustice. Ce qui met Guignol en route, c'est sa haine de l'injustice. Et sa technique est très très simple, généralement il fait l'âne pour avoir du son. Il se fait passer pour plus bête qu'il est. Et poum, il revient par derrière, évidemment, triomphant et victorieux. Lorsqu'il décide, pour se venger d'un barbier qui l'a dupé, disons, dans un marché, il lui dit, ben voilà, je vous paye d'avance et je viens avec mon ami, on va se faire raser, très bien. Bon, le barbier accepte, il prend l'argent et Guignol arrive avec son âne. Mmh. Voilà, donc c'est ça. Il passe pour un imbécile et après, il passe pour un gros malin. Donc.
Et vous, sur cette dimension de contre-pouvoir qu'incarne le héros et peut-être même Jason
Si, non solo contre le potere, ma proprio contro...
Oui, ce n'est pas simplement contre le pouvoir. Simplement, c'est contre tout ce qui est défini comme conservation. Le héros est justement celui qui tend à dépasser quelque chose, pas de façon égoïste, mais qui essaye d'aller au-delà pour donner une nouvelle réponse, non seulement à soi-même, mais au monde entier. Jason, c'est le premier qui part par la mer, qui montre le chemin et qui montre une possibilité pour tout le monde. Donc pour moi, c'est une histoire vraiment révolutionnaire.
Une dernière pour la fin, Paul Fournel, avant de prendre le large avec Jason. J'adore ça. En fait, c'est une vraie définition de ce que peut être la littérature, ou disons une vraie incarnation de ce que peut être la littérature. Je vais vous laisser le lire d'ailleurs, ça va être encore mieux. C'est un passage où le maître demande à Guignol d'aller chez le pâtissier chercher des gâteaux.
Donc là, c'est un cas tout à fait d'improvisation. Donc Guignol joue dans un marché et il est devant une pâtisserie. Et donc d'un seul coup, ça lui donne une idée comme ça d'une petite scène.
Mais
scénette.
C'est votre invention ou c'est
non,
c'est le répertoire.
Non, ça c'est du répertoire. Alors le patron, donc Cassandre, le bourgeois, envoie Guignol pour faire des courses à la pâtisserie. Il dit, tu diras bien au pâtissier de m'apporter pour 5 heures précises tout ce que je vais te détailler. Fais bien attention. Un gâteau de Savoie. Oh, il fait donc des gâteaux avec sa voix, le pâtissier? Je croyais qu'il les faisait avec la pâte. Tu es bête, Guignol. Un gâteau de la Savoie, peu importe, c'est le nom qu'il donne à un gâteau, il saura le reconnaître. Ensuite, un pâté de Chartres. Un pâté de chatte? Oh, je pourrais pas manger de chat, j'aime trop les petits mirons. C'est pas de la chatte, c'est de Chartres. C'est le nom d'une ville en France. Tu lui demanderas un grand pâté avec une cheminée. Oh, faudra bien qu'il soit grand pour qu'il mette une cheminée. Faudra qu'il soit grand comme une maison et ainsi de suite. Donc voilà, là, cette scène se développe comme ça. Guignol raconte des bêtises et des bêtises. Donc à la fin, il lui dit « Tu demanderas tout cela pour 40 personnes. Je demanderai pour 50, il m'en restera davantage. Bon, tu te souviens de tout, répète voir. Un gâteau savoyard avec une cheminée, des œufs de chatte dans la neige. Mais non, des œufs chauds comme de la neige, des pâtisseries dans une horloge. Guignol sort en répétant sa litanie de bêtises. Le public applaudit. Laurent sort du Castelet, son guignol à la main. Il est en nage. Ce sale pays est aussi brûlant l'été qu'il est glacé en hiver. Les enfants jettent un sou dans le chapeau et s'approchent pour toucher Guignol. Ils sont circonspects devant ce petit être vivant qui a pourtant l'air d'être en bois. Très vite, les mamans les entraînent vers la vitrine du pâtissier et l'appétit ouvert font quelques emplettes. Lorsque Laurent finit de démonter son Castelet et de ranger ses marionnettes, le pâtissier vient vers lui avec un paquet de gâteaux. « Tiens, lui dit-il, je ne suis pas sûr que tes têtes de bois mangent des gâteaux, mais je suis certain que tes enfants le font, et peut-être même toi, si ça se trouve. Ce sont des chaudelets tout frais qui sentent bon l'anis. Merci pour la réclame. » Tu as affamé tes spectateurs.
Merci Paul Fournel, voilà, pour le plaisir. Voilà, d'écrire donne l'idée de la chose en réalité et la littérature donne faim. Je ne sais pas si Jason avait faim, en tout cas il avait faim d'aventure, Andrea Marcolongo.
Sicuramente si, sûrement.
On en parle tout de suite avec vous. On écoute d'abord votre choix musical, donc ça s'appelle La part du héros, c'est aux belles lettres. Yo que amo solote de Sergio Endrigo.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene. Per cercare nuove avventure c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Regalerò quel che resta della mia gioventù.
Yo que amo solo te de Sergio Endrigo, c'est le choix de Andrea Marcolongo qui publie La part du héros, le mythe des Argonautes et le courage d'aimer, c'est aux belles lettres. Elle est avec Paul Fournel qui publie Faire guignol chez POL. Je ne sais pas si Jason est un guignol, en tout cas il avait envie d'aventure. Pourquoi ce choix musical, Andrea Marcolongo?
Non, sapevo che questa canzone non.
Je ne savais pas que cette chanson n'était pas connue en France. Je l'ai écoutée pendant toute l'écriture de ce livre et c'est une chanson qui me touche vraiment au plus profond. Et elle dit « Je voyage toutes les routes du monde, tous les chemins du monde. » Et puis il dit « Moi, je n'aime que toi. » Et je te consacre tout ce qui me reste de ma jeunesse. Et moi, je vois m'aider dans ces mots, dans ces paroles.
Alors, il est vrai que cette part du héros est aussi un livre sur l'amour. C'est même son sous-titre, hein, je le disais, le mythe des Argonautes et le courage d'aimer. C'est après la part du héros. Donc, il paraît aux belles lettres et il fait suite, en tout cas, il suit chronologiquement le livre pour lequel vous étiez venu ici, La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, qui était un éloge du grec ancien, en même temps que le journal d'une helléniste, en même temps qu'un manuel de grammaire poétique, pragmatique, plein d'exemples. plein d'expériences. Et ce livre est tout aussi hybride dans sa forme, puisqu'il parle d'un des plus vieux mythes de l'Antiquité. Alors pour vous, c'est le plus vieux?
Non solo per Homer.
Pas seulement pour moi, c'est pour Homer. Alors si c'est Homer qui l'a dit, je l'y crois.
Oui, il faut toujours croire Homer.
Ah, oui.
Oui, d'ailleurs, Homer ne racontait même pas quand il parlait du... Il ne s'appesantit pas. Euripide le connaissait par cœur aussi.
Homer dit c'est un mythe totalement noir.
Oui, Homer dit que c'est un mythe tellement connu que cela ne vaut pas la peine de le raconter.
La cosa più bella è che Apollonio
Rhodes. La meilleure des choses, c'est que Apollonios de Rhodes, lorsqu'on parlait tout à l'heure de récits, de mémoires, de littérature, pour moi, Apollonios
de Rhodes,
c'est vraiment le premier
Marcel Proust
de la littérature. Parce qu'il joue avec les plans temporels, il écrit, il met sur la page à peu près 200 ans avant Christ, un mythe très ancien qui fait partie de toute la littérature grecque, de la tragédie. Et donc il joue sur le fait que dans les mythes des Argonautes, on trouve avant tout les sirènes, des personnages que nous connaissons grâce à Homer, mais avant, c'est des personnages qui peut-être sont des enfants ou font autre chose. Mais dans l'esprit du lecteur, il y a cette fascination des différents plans temporels.
Alors, cette histoire, tout le monde la connaît, c'est pas seulement Homer, les contemporains aussi, donc c'est la quête de la Toison d'or par l'équipage du jeune Jason, donc le premier homme de la littérature grecque à prendre la mer, écrivez-vous, Andrea Marcolongo. Et à partir de ce mythe, vous développez une réflexion sur le courage, celui de trouver sa place dans le monde, sur l'héroïsme aussi, qui passe notamment par le lien que vous faites, vous n'êtes pas la seule, entre héros et héros. Comme je l'ai demandé à Paul Fournel pour Guignol, autre héros, est-ce qu'on doit vous croire sur parole quand vous jouez sur la proximité entre ces deux termes, comme le faisait un certain Platon d'ailleurs?
Non sono stata proprio io, anzi Platone.
Ce n'était pas vraiment moi, c'était Platon, bien sûr.
Donc,
à nouveau, il faut toujours faire confiance à Platon.
Non c'è alcuna, come diceva Paul Fournel,
Paul Fournel, il n'y a pas de raison linguistique. Nous pouvons dire que Platon invente. C'est ça la magie du mot grec. Héros comme amour et héros comme héros. Ce n'est pas une tendance érotique entre deux personnes, c'est vraiment une tension vers la vie, vers tout ce qui est plus grand que nous. Il faut penser au... Et ensuite, il y a Dante. Dante a adoré ce mythe.
Dante que vous citez d'ailleurs avec sa petite barque qui est présent en fait dès les premières pages. Au fond, on voit que tout le monde a mis finalement son bateau dans le sillage de ce plus vieux mythe. L'auteur qu'on ne connaît pas originellement, puis Apollonios de Rhodes, qui le fixe en fait. C'est un peu comme...
Oui, c'est ça.
Comme le poème homérique.
C'est encore plus compliqué
parce que nous connaissons la tragédie d'Euripide, la Médée, et non seulement. Il y a des personnages qui reviennent dans la littérature grecque. Donc, quelque part, ils sont purs. Ils sont transparents.
Et comme d'ailleurs Laurent Mourguet, le créateur de Guignol, on ne sait pas grand-chose sur Apollonios de Rhodes. Alors on dit quand même que c'était donc le directeur de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, c'est merveilleux. Mais si l'on ne connaît rien d'Homère, nous ne connaissons rien non plus d'Apollonios de Rhodes. Il paraît qu'il a consacré toute sa vie à écrire les Orgonautiques, mais c'était un mythe oral peut-être, mais nous ne savons pas la façon dont il a travaillé, comment il a cherché les sources. Sûrement, il ne les a pas trouvées dans la bibliothèque. Les Argonautiques ont été son obsession, presque comme les grâces pour Foscolo.
Alors, j'ajoute d'ailleurs pour les auditrices et pour les auditeurs que les Argonautiques, donc d'Apollonios de Rhodes, sont republiés aux belles lettres sous une belle couverture mauve pour fêter le centenaire de la maison. Alors, je voulais aussi vous lire un extrait de la part du héros d'Andrea Marcolongo. Dans l'Antiquité, il n'existait pas de statut absolu de héros comme fait établi. La valeur, la force, la vertu, l'esprit ne valaient qu'une fois mis à l'épreuve du monde. Les antécédents, le statut social, la cité d'origine ne comptaient pas. On ne naissait pas héros. Mais on choisissait de le devenir, en acceptant d'affronter une série de travaux dont la finalité suprême était d'aider les autres, en rendant l'inconnu connu de tous et la traversée possible parce que quelqu'un l'avait faite auparavant. La mesure héroïque était donnée par l'expérience du dépassement de soi et non par le résultat. Peu importait l'échec, le héros n'était pas le vainqueur, mais celui qui avait ne fût-ce qu'essayé. D'Hector et d'Achille, nous avons en mémoire leur valeur au pied des murs de Troie et non leur défaite. La gloire pour laquelle ils combattaient les a fait immortels, bien au-delà de leur chute, des héros pour toujours. Celui qui avait accepté le défi de se mesurer à quelque chose de plus grand que lui pour grandir à jamais. L'étymologie du mot « héros » proposée par Platon dans le dialogue du Cratyle est fantaisiste, mais éclatante de sens. Selon le philosophe, il n'y a qu'une force qui puisse pousser les hommes à devenir des héros. Eros, eros, l'amour. Il n'y a que la nature, longue ou brève des deux voyelles eta epsilon, qui différenciait ces deux précieux mots du grec ancien. Avant de partir, Jason n'était jamais tombé amoureux. Une foule nombreuse accourait au port pour pouvoir admirer cette troupe audacieuse. Les femmes levaient les bras au ciel en suppliant les dieux de leur permettre de revenir. Leur nom était invoqué dans chaque rue de la cité. Tout à l'heure, Andrea Marcolongo, Paul Fournel disait « Les pauvres n'ont pas de mémoire », donc il s'est chargé de redonner sa mémoire à Laurent Mourguet, le créateur de Guignol. Est-ce que vous vous êtes dit ça aussi pour Apollonios de Rhodes, qui était peut-être pas pauvre, mais en tout cas qui était quand même bien oublié? En tout cas, son nom, plus personne ne le connaît. On connaît le mythe, mais on ne connaît pas celui qui a fixé le mythe.
C'est exactement l'histoire opposée par rapport à celle d'Homère. Nous ne savons pas qui était Homère, mais son nom pourtant est devenu immortel, alors que le nom d'Apollonios de Rhodes n'a pas survécu, il a été oublié. Par contre, le mythe a continué à vivre. C'est peut-être l'une des bizarreries de cette aventure littéraire qui est également l'histoire, le mythe des Argonautes.
Je le disais tout à l'heure, ce livre est hybride totalement. Il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a du grec, il y a de l'italien, il était écrit en italien, il y a une part d'essai, une part plus intime aussi. C'était important pour vous d'échapper justement à toute taxinomie, comme on dit?
Oui, maintenant je souris, mais moi je ne sais pas exactement ce que j'écris, et pourtant j'écris. Voilà, c'est bien ce mot, taxonomie, parce que effectivement je ne saurais pas dire si ce roman est un récit d'un mythe. Moi je sais ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas mon autobiographie, ce n'est pas un livre sur les étymologies, ce n'est pas un traité complet sur le mythe des Argonautes. Il y a des parties qui sont fonctionnelles à mon style, à mon émerveillement. Je parle également de moi. Je parle du présent, d'histoire que j'ai trouvée en ligne sur Internet.
C'est important de rappeler d'ailleurs ce message que vous parlez du présent, que ce n'est pas un livre sur l'Antiquité, mais que c'est un livre sur le présent.
On ne peut pas avoir un livre sur l'Antiquité qui parle d'ancien. C'est ça l'essence du classique. Donc, je le réaffirme toujours, je suis une helléniste, mais j'écris sur le présent, pas sur l'ancien.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors, vous, dans ce vieux mythe qui est le mythe de Jason et des Argonautes? Parce que quand on regarde l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, alors peut-être que vous avez trouvé des points communs, mais on se dit, a priori, cette époque n'a rien de commun avec celle dans laquelle vivait Apollonios de Rhodes.
Je ne suis pas d'accord. Calas disait que le mythe est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, mais qui arrive toujours. Alors, ça n'a pas d'importance d'être à Paris aujourd'hui en 2019 ou Alexandrie, à l'époque, 200 ans avant Jésus-Christ. Nous tous, quand nous nous réveillons le matin, nous devrions nous regarder dans les miroirs et choisir ce que nous voulons faire de nous-mêmes, assumer la responsabilité de ce que nous voulons léguer à nos enfants. C'est une question de transmission culturelle, donc pas seulement d'un mythe ou d'une légende. C'est ce que nous voulons transmettre à ceux qui viendront après nous. C'est comme Dante le disait, c'est quelque chose qui vaut très peu, un petit bateau ou quelque chose de très grand.
Oui, et comment on dit d'ailleurs en italien le petit bateau ?
Piccioletta barca.
Voilà. Effectivement, on choisit une petite barque ou on choisit Argo. Vous citiez Roberto Calasso, effectivement, qui écrivait dans Les Noces de Cadmos et Harmonie, ces choses n'eurent jamais lieu, mais elles sont toujours. Est-ce que vous pensez que ce serait la meilleure des explications, justement, à la vivacité de ces histoires et finalement un éloge de la fiction ? Elles n'ont pas eu lieu, donc elles sont plus fortes que tout, puisque chacun peut les faire vivre, et c'est ce que vous faites dans ce livre.
Oui, absolument. C'est une des fictions les plus claires et qui sont plus chères pour nous. Nous tous, ce matin comme ce soir, nous allons rentrer à la maison et soit on se sent seul comme des argonautes lorsqu'ils font naufrage et ne trouvent pas les mots pour exprimer leur douleur, ou bien nous allons avoir quelqu'un qui nous attend, une famille. Et nous devons dire véritablement de façon sincère comment vas-tu ? Parce que si on renonce à ça, nous allons vivre sur une piccioletta barca, sur un truc de tout petit, alors que les questions contemporaines, m'aider, le navire, la Méditerranée, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec des petits argots, m'aider, l'étrangère, la femme qui vient de loin, je pense à tous les mouvements, le MeToo également, combien de choses.
On peut relier m'aider à MeToo ?
J'aime citer une phrase
que dans le mythe, la vie du monde se base sur les pleurs des femmes.
Médée
n'est pas si contente de tout quitter par amour, d'arriver en Grèce et d'être une étrangère pour toujours, une étrangère pour elle-même.
Et en plus, elle tue ses enfants.
Ça, c'est la tragédie.
Il y a beaucoup d'invités, on le disait, Andrea Marcolongo, dans ce livre. Vous vous invitez dans l'histoire de Jason et des Argonautes. Dante est présent aussi parce qu'il a consacré des vers à Argo. Je voudrais vous demander, et la question s'adresse aussi à Paul Fournel, est-ce que finalement ce bateau, cet Argo, au lieu d'être un simple véhicule, ne serait pas une métaphore ? Donc, et ce qui est amusant, c'est que métaphore, c'est le mot, encore d'ailleurs en grec moderne, qui veut dire les transports, ce qui nous transporte. Les transports, il y a plusieurs aussi, les transports amoureux. Est-ce qu'au fond, la force aussi de ce mythe-là, c'est qu'on peut remplir comme on veut, c'est la coque de ce bateau, pour aller où on veut.
Absolument, si, per andare.
Oui, absolument. Pour aller là où on veut et pour être ce que nous voulons être.
Cavafi qui dit
les hautes pensées, il faut qu'on se remplisse de pensées qui volent vers le haut.
Et vous, Paul Fournel, vous considérez la littérature l'Oulipo comme le meilleur des véhicules, des transports ?
Oh, le meilleur, probablement pas, mais à coup sûr, un bon véhicule, oui. Mmh. C'en est un.
Pour terminer cette émission, un petit peu d'Apollonios de Rhodes, quand même. Voilà, c'est le départ d'Argo, et puis ça signera voilà la fin de cette émission. Après, les auditrices et les auditeurs partiront à bord de ces deux argots que sont la part du héros d'Andrea Marcolongo, donc aux belles lettres, et Ferguignol de Paul Fournel chez POL. Mais quand l'éclatante aurore de ses yeux brillants regarda les cimes élevées du Pélion, tandis que par le vent agité, la mer en signe de beau temps battait les promontoires, Tiphys se réveilla. Aussitôt, il pressa ses compagnons d'embarquer sur le navire et de disposer les rames. Tout à coup, un cri terrible jaillit du port de Pagase et d'Argo elle-même, enfant du Pélion, qui hâtait le départ. En effet, dans la nef était enfoncée une poutre divine. On retrouve Guignol, Paul Fournel. Une poutre divine qu'Athéna avait tirée d'un chêne de Dodone pour l'ajuster au milieu de l'étrave. Les héros montaient sur les bancs, l'un derrière l'autre, chacun à la place que le sort leur avait attribuée pour ramer, s'assirent en bon ordre près de leurs armes. Au milieu s'installaient Ancaïos et la grande force d'Héraclès. Celui-ci posa près de lui sa massue et sous ses pieds s'enfonça la quille du navire. On tirait déjà les amarres et l'on versait une libation de vin à la surface de la mer. Mais Jason, en pleurant, détourna les yeux de la terre paternelle. Merci à vous deux. Donc, La part du héros, Andrea Marcolongo, et Fer, Guignol de Paul Fournel. Merci.
Merci à vous.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Claire Levasseur à la technique. J'en profite pour remercier aussi Federica Cianficoni, qui était votre interprète, Andrea Marcolongo. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini, réécouter sur franceculture.fr, 7h donc avec Andrea Marcolongo et Paul Fournel.